Bonjour à tous. Je suis biologiste au laboratoire d'hématologie au centre hospitalier Lyon-Sud. Je vous remercie de m'avoir convié pour présenter la prise en charge d'une hémorragie chez un polytraumatisé en biologie délocalisée. Je tiens à excuser Jean-Stéphane David, qui est clinicien au déchocage et qui aurait dû m'accompagner aujourd'hui, mais il a été retenu pour des obligations universitaires. Donc, tout d'abord, en cas de traumatisme sévère, il existe une activation importante de la coagulation liée à une libération massive de facteurs tissulaires. Parallèlement, il existe une fibrinolyse physiologique qui s'installe pour empêcher une extension incontrôlable de la coagulation. Secondairement, en raison de plusieurs mécanismes qui interviennent, il peut aussi se mettre en place un état d'hypocoagulabilité et d'hyperfibrinolyse, concourant à installer une coagulopathie secondaire qui peut entraîner et renforcer d'autant plus les hémorragies qui existent souvent chez un traumatisé sévère. Ces hémorragies sont traitées par des produits sanguins qui contribuent également à une dilution et c'est la dilution au niveau du plasma du patient renforce également la coagulopathie. Il existe donc un peu un cercle vicieux constant entre coagulopathie, hémorragie, transfusion et qui est bien corrélé avec la mortalité chez ces patients polytraumatisés sévères. En cas de choc hémorragique sévère, une coagulopathie est observée chez 10 à 30% des traumatisés sévères et quand cette coagulopathie est présente, elle aggrave considérablement le pronostic des patients puisque la coagulopathie est multipliée, la mortalité pardon, est multipliée environ par 4. Donc les outils de biologie délocalisée et notamment le ROTEM ont toute leur importance dans le diagnostic de ces coagulopathies et la prise en charge rapide de ces patients polytraumatisés puisque la détection précoce d'une coagulopathie permet de mettre en place des thérapeutiques ciblées chez ces patients polytraumatisés. Donc le ROTEM, qu'est-ce que c'est ? Donc, le principe du ROTEM, ça repose sur la thromboélastographie qui a été décrit dès 1948. Et ce principe, en fait, repose sur le changement de la viscosité sanguine lors d'une coagulation. Donc, c'est en fait une technique qui permet une approche globale de la coagulation qui se fait sur sang total à 37 degrés et qui permet d'apprécier d'une part l'agrégation plaquettaire, l'activation de la coagulation, la fibrinoformation et la polymérisation et la fibrinolyse. Des résultats rapides sont obtenus dès 5 à 10 minutes qui permettent donc de prendre des décisions ultra précoces du côté clinique. Donc le principe du ROTEM, c'est un automate du coup de biologie délocalisée qui comporte 4 canaux de mesure indépendants. Chaque canal comporte un axe rotatif qui oscille selon un mouvement de plus ou moins 4,75 degrés. Sur chacun de ces axes, on met une cuvette en fait, à usage unique qui comporte l'échantillon sanguin à température contrôlée plus le réactif. Lorsque la coagulation se fait, la formation du caillot entrave le mouvement de l'axe et de la goupille, ce qui fait que du coup, il y a un ralentissement l'oscillation est gênée. Et cette oscillation, elle est détectée par un rayon lumineux qui est reflété par un miroir qui est situé sur l'axe de rotation et qui est renvoyé à un détecteur. Derrière, il y a le logiciel ROTEM qui va convertir l'amplitude d'oscillation de l'axe en amplitude de fermeté du caillot. On obtient donc un graphe qu'on appelle le thémogramme. Alors, voici par exemple un tracé que l'on peut obtenir avec différents paramètres qui sont interprétés au niveau de ce thémogramme. le temps de coagulation qu'on appelle le CT, qui est le temps écoulé depuis le départ de la mesure jusqu'au début de la coagulation et qui correspond donc à l'initiation de la coagulation jusqu'à l'apparition des premiers filaments de fibrine et des plaquettes activées. Il y a également le temps de formation du caillot qui apparaît en rose sur le schéma, qui est le temps écoulé entre la fin du CT jusqu'à ce que la courbe atteigne une amplitude de 20 mm. Ça estime en fait la rapidité d'apparition de la fibrine et de la liaison des filaments de fibrine dans le caillot, notamment via l'intervention du facteur 13. Il existe également le paramètre fermeté maximale du caillot qui correspond à l'amplitude maximale du caillot et ça mesure la solidité du caillot qui dépend essentiellement du fibrinogène et des plaquettes. On a aussi les amplitudes A5, A10 qui correspondent à la fermeté du caillot à 5 minutes, à 10 minutes, à 20 minutes. Donc on a plusieurs temps de mesure. Et puis, il y a la lyse maximale qui mesure la fibrinolyse maximale détectée pendant l'analyse. Donc, cet indice de lyse maximale n'est pas toujours présent puisque quand le caillot reste stable et qu'il n'y a pas de fibrinolyse chez le patient, la lyse maximale reste inférieure à 15%. Au cas où il y a une fibrinolyse chez le patient, la lyse maximale est supérieure à 15%. Donc, comme je vous l'ai dit, le ROTEM il nécessite l'emploi de réactifs. On va voir ici seulement les réactifs qui sont utilisés au centre hospitalier Lyon-Sud. Donc, on utilise l'EXTEM qui contient comme activateur le facteur tissulaire afin d'activer la voie extrinsèque et qui permet une évaluation rapide de la formation du caillot, de la polymérisation de la fibrine, de l'hyperfibrinolyse par la voie extrinsèque. Et puis, il y a également un test supplémentaire qui est le FIPTEM. Le FIPTEM il contient un réactif qui permet d'inhiber l'activité des plaquettes et qui permet donc d'évaluer qualitativement la polymérisation de la fibrine. Donc voilà par exemple les tracés que l'on peut obtenir. Donc à partir de l'EXTEM, on a un graphe qui permet d'évaluer les facteurs 2, 5, 7, 10, le fibrinogène, les plaquettes et la fibrinolyse. Et puis il y a un test qui est bien complémentaire du coup de l'EXTEM, qui est le FIPTEM, qui s'interprète du coup en parallèle à l'EXTEM. Si le FIPTEM, on retrouve un résultat normal, le patient n'a pas besoin de fibrinogène et à ce moment-là, la fermeté maximale du caillot est réduite, c'est plutôt un problème de plaquettes. Alors que si du coup le FIPTEM a un résultat anormal, c'est que le patient a un fort déficit en fibrinogène et à ce moment-là, il recevra pour traitement du fibrinogène. Donc voici différents profils que l'on peut retrouver chez des patients. Donc ça, c'est un profil normal. Du coup, vous avez ici l'EXTEM et ici le FIPTEM. En cas d'un profil d'hyperfibrinolyse, vous avez un aspect typique en forme de goutte. Du coup, vous retrouvez à ce niveau-là qu'une fois que le caillot s'est formé, derrière, il va se liser, ce qui fait qu'on obtient ce profil en forme de goutte. En cas de déficit en fibrinogène, vous avez un EXTEM qui a une fermeté maximale du caillot qui est réduite par rapport à un tracé normal. Et comme vous voyez ici, l'amplitude du caillot est très faible, ce qui fait que le patient va devoir être transfusé en fibrinogène. En cas de thrombocytopénie, vous avez un EXTEM qui est globalement comparable à un déficit en fibrinogène, mais en revanche, le FIPTEM reste normal, ce qui fait plutôt penser à un problème au niveau des plaquettes. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on fait en cas d'un patient qui arrive avec un traumatisme sévère et avec un état de choc hémorragique ? Donc, les recommandations actuelles préconisent de maintenir une hémoglobine entre 70 et 90 grammes par litre et d'adapter en fait la transfusion de plasma frais congelé, de fibrinogène ou de plaquettes en fonction des résultats de la biologie standard. Néanmoins, les résultats de la biologie standard, donc TP, TCA, fibrinogène, c'est pas franchement compatible avec la gestion en urgence d'un état de choc hémorragique. Du coup, les recommandations de la Société française d'anesthésie et de réanimation préconisent en fait une stratégie de traitement au plasma frais congelé en cas d'hémorragie sévère, c'est-à-dire de transfuser le patient en même temps en CGR et en PFC selon un ratio soit un PFC, un CGR, soit un ratio un PFC, deux CGR. Donc sans attendre les résultats de la biologie. Mais il existe également une autre stratégie qui est basée sur l'Eurotem et qui est également mentionnée dans les recommandations que l'Eurotem peut être utilisée dans le but d'identifier la coagulopathie avec du coup des délais raccourcis et de faire un traitement rapide de cette coagulopathie. Alors, la stratégie de traitement au PFC a quand même de nombreuses limites parce que les recommandations, elles disent, on transfuse autant de PFC que CGR. Le problème, c'est que la stratégie de traitement au PFC a quand même des effets secondaires puisqu'il a été démontré que ça pouvait être associé à un risque augmenté de défaillance multiviscérale et un risque de syndrome de détresse respiratoire aiguë. D'autre part, le PFC, par poche, en fait, il a été montré que ça augmentait de façon assez limitée, finalement, les taux de facteurs d'environ 2,5%. Du coup, on comprend bien que s'il y a un patient qui arrive en état de choc hémorragique avec, par exemple, un TP à 20% et une hémoglobine à 50 grammes par litre, si on respecte finalement le ratio, le patient va recevoir 6 CGR plus 6 PFC globalement, 6 CGR pour remonter l'hémoglobine jusqu'à 80-90, et ben en fait le TP va remonter seulement de 15%. Et on restera quand même en dessous des recommandations des sociétés qui nous disent qu'il faut maintenir un TP au-delà de 40% dans ces états de choc hémorragiques. Donc au centre hospitalier Lyon-Sud, notre prise en charge, elle est basée sur le ROTEM. Donc, après un traumatisme sévère, globalement, il y a 3 situations cliniques qui se dégagent. Donc, c'est un peu pour résumer, mais il y a à peu près 3 situations cliniques différentes. Soit l'hémorragie est non contrôlée, ça représente très peu de cas par an, on va dire moins d'une dizaine. Le patient reçoit donc une transfusion massive CGR plus PFC plus des concentrés de fibrinogènes. Et il y a un ROTEM qui est prélevé parallèlement. En cas d'hémorragie plus ou moins contrôlée, le patient reçoit uniquement du fibrinogène et des concentrés de globules rouges, et il y a un ROTEM qui est aussi prélevé. Et en cas d'hémorragie contrôlée, le patient reçoit uniquement des concentrés de globules rouges en fonction des valeurs de l'hémoQ, et le ROTEM est prélevé parallèlement. L'intérêt du ROTEM, c'est que les cliniciens vont avoir des résultats très très rapidement. En 5 minutes, ils vont pouvoir adapter le traitement et donc la transfusion et donc de faire un traitement ciblé au lieu de donner tout un éventail de produits sanguins aux patients. Donc la décision clinique est ultra précoce lors de cette prise en charge basée sur le ROTEM puisqu'elle se fait sur le temps de coagulation de l'extème, sur l'amplitude à 1,5 et de l'extème et du fitem et sur la fermeté maximale du caillot de l'extème. Il y a un algorithme de prise en charge qui a été mis en place au sein du déchocage basé à la fois sur le FIPTEM et sur l'EXTEM et qui nous dit que si la 5 de FIPTEM est inférieure à 7 mm, le patient doit recevoir du fibrinogène. Parallèlement, il regarde également l'EXTEM. Si l'EXTEM est augmenté, il y a le CT qui est augmenté de façon isolée sur l'EXTEM, ça reflète probablement que le patient est sous AVK ou sous AOD, donc il reçoit du concentré de complexe prothrombinique. En revanche, si le CT est également allongé, au-delà de 106 secondes, le patient reçoit du plasma frais congelé ou des concentrés de complexe prothrombinique. Pour les cliniciens qui ont un petit peu plus l'habitude d'utiliser le ROTEM au déchocage, il y a également un algorithme qui a été fait en fonction des graphes obtenus. Donc s'il y a un profil d'hyperfibrinolyse, le patient reçoit à la fois du plasma frais congelé et du fibrinogène. En cas de déficit isolé fibrinogène qui se traduit uniquement par une diminution de l'amplitude à 5 minutes du FIP-TEM, le patient reçoit uniquement du fibrinogène. Et au cas où il y a à la fois une diminution de l'amplitude du FIP-TEM à 5 minutes et un allongement du CT sur l'extem, le patient reçoit à la fois du plasma frais congelé et à la fois du fibrinogène. Dans tous les cas, après chaque administration de produits sanguins, le patient bénéficie d'un nouveau ROTEM pour adapter de nouveau la prise en charge. Alors, l'apport du ROTEM, il y a une étude avant utilisation du ROTEM et après utilisation du ROTEM qui a été faite au centre hospitalier Lyon Sud. Donc il y a eu 198 patients avant ROTEM et 254 patients après utilisation de ROTEM et il a été montré que dans le groupe ROTEM il y avait une diminution significative de l'utilisation de concentrés de globules rouges, de plasma frais de congelé et de plaquettes, mais en revanche une augmentation de la transfusion de fibrinogène. Par ailleurs, la transfusion massive des patients était bien moindre dans le groupe ROTEM versus le groupe test standard de laboratoire, puisque dans le groupe ROTEM, la transfusion massive était observée seulement chez 8% des patients versus 31% des patients dans le groupe sans ROTEM. Et il a également été démontré que appartenir au groupe sans ROTEM était un facteur prédictif indépendant de transfusion massive. Au niveau de la survie, à 24 heures, il n'y a pas été observé de différence significative. En revanche, sur la survie à 28 jours, le fait de ne pas avoir bénéficié de ROTEM était un facteur prédictif indépendant de risque de survenue de décès. Donc la question qu'on se pose, parce que ça a été fait sur une petite étude, c'est est-ce que c'était un effet vraiment lié au ROTEM ou alors un effet du centre? Et puis il faut également savoir qu'entre les deux périodes, avant ROTEM et après ROTEM, il y a eu aussi des nouvelles recommandations des sociétés françaises d'anesthésie et de réanimation et européennes qui sont parues et qui ont également un peu modifié la prise en charge des patients polytraumatisés. Au total, dans notre étude, il y a donc eu une réduction de l'utilisation des produits sanguins, une réduction de la transfusion massive et une diminution de la mortalité à 28 jours. Dans la littérature, la diminution de l'utilisation des produits sanguins labiles et la diminution des coûts a également été rapportée dans plusieurs études. Et puis, il y a beaucoup, d'assez nombreuses publications en cours qui montrent que le ROTEM permet une interprétation plus rapide que la biologie, que ça reflète mieux la réalité de l'hémostase parce que c'est une approche plus globale de la coagulation, que ça permet de réduire l'utilisation des produits sanguins labiles, qu'il y a une baisse des coûts liés à la transfusion et que, selon les études, il y a une amélioration de la mortalité. Donc là, on va voir un cas concret. C'est un patient qui a eu un accident, qui a été éjecté de son véhicule et qui s'est retrouvé coincé sous son véhicule. À la prise en charge par le SMUR, le patient a un Glasgow à 14, une hémodynamique stable. Il a un délabrement important des deux membres supérieurs. L'hémoglobine à l'hémoQ à la prise en charge pour le SAMU est à 104 grammes par litre. Et le patient, du coup, a un remplissage vasculaire, plus il reçoit de l'acide traxénamique. Au moment du transport en hélicoptère, le patient se dégrade. Du coup, il y a une poursuite du remplissage, mais en plus, il reçoit de la noradrénaline. Et à l'arrivée au déchocage, catastrophe, le patient est exsangue. La pression artérielle est non mesurable. La fréquence cardiaque est supérieure à 150. L'hémoglobine rapportée par l'hémoQ est à 41 grammes par litre et le patient est en désaturation. Donc il a franchement des lésions très très importantes, il saigne de façon abondante. Du coup, dès son arrivée au déchocage, il bénéficie en fait d'emblée le patient de 4 CGR et il reçoit également du fibrinogène. Le ROTEM que l'on a été réalisé après administration de fibrinogène et on s'aperçoit que l'amplitude à 5 minutes est de 8 mm. Donc, ce qui ne nécessite pas de transfusion de fibrinogène selon l'algorithme que l'on utilise. Et le temps de coagulation est normal à 73 secondes. Le patient, ensuite, est au scanner à 15h40. Donc là, on retrouve au niveau du rotem, au moment où il est au scanner, un extème qui est globalement normal, et un fibtème où la 5 est à 8 mm, et donc ça ne nécessite pas en fait, de transfusion en fibrinogène. Si on se basait en fait sur les recommandations de l'ASFAR avec la biologie normale, on s'aperçoit standard, je veux dire, on s'aperçoit qu'au scanner, le patient il a un TP à 35%, et normalement, selon les recommandations, dès que le TP est inférieur à 40%, ce patient aurait dû être transfusé en PFC. On s'aperçoit que nous, au déchocage, le PFC n'a pas été donné puisque le CT était normal sur l'extème. Au bloc, le patient y est à 17h, c'est pareil, sur la biologie standard, le TP à 23%, le patient, selon les recommandations, aurait dû recevoir du plasma frais congelé puisque le TP est inférieur à 40%. Chez nous, le patient n'a pas reçu de PFC puisque le CT au niveau de l'extème était normal. En revanche, vu que l'amplitude à 5 minutes du fibtème était inférieure à 7 mm, le patient a bien reçu du fibrinogène. Donc, en conclusion, alors je ne sais pas si la petite vidéo va marcher. Non, bah ça ne marche pas. Je suis désolée. Du coup, la stratégie de traitement au PFC, en fait, c'est en fait, de donner plusieurs produits sanguins en espérant que le traitement puisse compenser à peu près tous les déficits qu'il puisse utiliser. Donc, en gros, ça nous fait penser que l'abondance de la mitraille compense l'imprécision du tir, comme dans un peu la Première Guerre mondiale. Maintenant, il y a les stratégies de traitement ciblées qui existent du coup au niveau et qui sont faites grâce au ROTEM en fait, et il y a maintenant une définition précise de la cible avec un traitement spécifique, et du coup ça correspond beaucoup plus à ce qu'on voit maintenant actuellement au niveau, c'est un peu pareil, on définit la cible et après on traite spécifiquement. Donc, en résumé, quand il y a une patiente polytraumatisée qui arrive aux urgences, le diagnostic de coagulopathie peut être difficile selon la clinique. Le ROTEM, c'est un test qui est fiable et rapide, qui permet de détecter précocement ces coagulopathies et qui permet de cibler la thérapeutique. Par conséquent, on économise des produits sanguins labiles, on diminue la transfusion massive, on améliore le pronostic des patients. Et ça nécessite également une collaboration importante en cliniciens et biologistes. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. C'est très, très intéressant. On a un peu de temps pour quelques questions. Oui ?
Bonjour, merci. Bonjour. Pour la présentation, c'était parfait. Donc je suis Agnès Paul, je suis biologiste à l'hôpital de Périgueux. Et j'avais une question pratique. Donc déjà, qui interprète les graphes ?
C'est les cliniciens.
D'accord, donc c'est eux qui sont habilités à passer les prélèvements et...
Alors, en fait, au centre hospitalier Lyon-Sud, c'est plutôt ce qu'on appelle de la biologie relocalisée. C'est-à-dire que l'automate est chez nous, mais l'interprétation des graphes est vue en direct par le clinicien. En fait, ils ont un deuxième écran, ils voient exactement le même écran que chez nous. Mais il faut savoir quand même que... Donc nous, on a un ROTEM Delta qui est chez nous, donc... qui a un automate qui nécessite un peu une manipulation technique qui est un petit peu particulière, mais la société Werfen développe également le ROTEM Sigma. C'est l'utilisation de cartouches en fait, qui sont toutes simples, et il n'y a plus qu'à introduire la cartouche en fait, dans l'automate, et du coup la manipulation technique est bien moindre, et du coup au niveau technique c'est moins compliqué, ce genre d'automate peuvent très bien être mis au niveau des déchocages.
D'accord, mais du coup au niveau algorithme, sur le résultat et la décision, ça c'est purement manuel, quoi. Il n'y a pas de logiciel qui interprète et qui dit ben, vous devez passer tant de PFC.
Non, l'algorithme est fait par les cliniciens.
D'accord, PFC, pardon. Et donc du coup, ça pose une problématique parce que nous, on est dans une région où en fait c'est un peu sous-médicalisé. Et donc du coup, on n'a pas non plus pléthore d'hémorragie massive, mais on pensait à cette solution en déloc. Et en fait, c'est plus compliqué que ça, parce que du coup, il faut vraiment une habilitation béton. Et comme vous, à Lyon, vous avez beaucoup plus d'hémorragie que dans une zone démographique plus faible, ça... Ok, c'est juste une question sur l'habilitation du personnel. En fait, vous avez pas... Il n'y a pas eu une démarche là-dessus
En fait, au niveau, le clinicien, c'est un peu pareil que quand il interprète finalement un hémogramme, parce qu'il reçoit son hémoglobine à 50 et lui, il a une prise en charge thérapeutique derrière. Là, il reçoit en gros un CT sur l'extème qui est à 180 secondes. C'est lui, au niveau de la prise en charge clinique, oui. C'est à lui de décider ce qu'il doit transfuser, en fait.
Sauf que l'hémogramme, on l'apprend à la fac et qu'on le maîtrise.
Oui, je suis d'accord.
Et voilà, c'était plus cette question. Mais non, j'appelle plutôt Werfen à faire peut-être un algorithme, enfin un logiciel qui permet la prise de décision derrière, quoi. Ça serait intéressant.
Je pense quand même que ça, c'est au niveau des les réanimateurs, je pense, commencent à vraiment entendre ça dans les congrès, parce que ça a été présenté sur plusieurs congrès internationaux, et je pense que ça va vraiment se développer dans les années à venir au niveau de ces patients.
Oui.
Oui, merci pour votre présentation. Là, on est typiquement dans le cas d'un test, d'après ce que vous avez expliqué, où le rôle du biologiste va se réduire à peau de chagrin, puisque vous dites que sur plan technicité, a priori, une infirmière du service pourra procéder au test. Au niveau de l'interprétation, ce sera directement le clinicien. Donc le biologiste, sur ce genre de test, n'a plus lieu d'être. Est-ce que j'ai bien compris ?
Alors, en fait, le problème, c'est que si l'automate, il est dans le service, c'est quand même de la responsabilité du biologiste, c'est de la biologie délocalisée. Donc, en gros, la responsabilité des contrôles internes de qualité, la responsabilité de l'évaluation de l'externe de la qualité, ça va quand même reposer sur le biologiste. Et si il y a un problème au niveau de l'automate, ça sera quand même le biologiste. Donc, oui, le rôle est limité, mais j'ai envie de dire, comme dans tout automate, finalement, de biologie délocalisée, c'est un petit peu réduit. Mais quand même, il faut quand même s'en occuper. Enfin, voilà, entre les contrôles à passer, plus tous les problèmes techniques qu'il peut avoir, c'est pas que du petit travail.
Non, mais on voit bien, et au travers de ce que Jacques Isopé avait présenté avant, et le fait qu'on ait un congrès biologie délocalisée et biologie d'urgence, qu'on a un espèce de continuum qui va du laboratoire pur, central, ou d'un relais sur une antenne, ou finalement délocalisé au lit du malade. Et le tout, c'est d'avoir la bonne décision d'implantation, de type d'implantation, en fonction des objectifs et en fonction aussi des machines. Vous le disiez, nous, on va installer, là, on a en évaluation un autre thème dans le cadre de l'hémorragie de la délivrance en obstétrique, et là ça va être vraiment au lit du malade. Donc ce sont des choix qui sont dictés par l'environnement, les indications, etc. C'est pas un problème.
Pour donner un exemple, au centre hospitalier Lyon Sud, nous, c'est les cliniciens qui nous ont demandé de relocaliser l'automate au labo.
C'est très bien, on collabore, cliniciens, biologistes, on est ensemble, il y a le malade au milieu. Ça, c'est des phrases pour faire plaisir à Jean-Gérard Gobert, il adore. Voilà, c'est bien comme ça. Je crois qu'il ne faut pas avoir des visions territoriales, etc.